Time is money. Il va vous falloir de wage.
Ça va coûter une fortune.
J'y peux rien. Ces racines sont fendues. Il faut extraire. Le problème est que ce sont des soins qui sont peu remboursés par votre assurance médicale.
En tout cas, ça doit rapporter au dentiste.
Oh, ne croyez pas que je roule sur l'or.
Pourtant, vous avez une sacrée installation.
Et vous avez vu ma salle d'attente? C'est un trou perdu. Je crois que j'ai fait une énorme connerie.
Comment ça?
J'ai racheté le cabinet, je me suis endetté pour payer ce matériel allemand haut de gamme, et maintenant, je n'ai même plus de quoi payer mes mensualités.
À ce point?
J'endors plus la nuit. Vous n'imaginez pas comment nous vivons, Martine et moi. On économise surtout. Riches les dentistes, ça dépend desquels.
Les chercheurs ne sont pas bien non plus lotis, vous savez. Et ça, c'est connu du public. Personne n'imaginerait un dentiste pauvre.
Eh bien, pourtant, c'est une triste réalité. Si ça continue, il va falloir essayer de revendre ce matériel d'occasion à un collègue qui s'installe dans un contexte plus favorable, dans une grande ville, un beau quartier, avec des gens pleins d'argent autour.
Et vous, qu'allez-vous devenir?
Il ne restera plus qu'à travailler dans un cabinet comme salarié. Ou ça, j'en sais rien.
C'est triste pour un jeune qui débute.
Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Oh, j'étais physicien, je suis à la retraite depuis peu.
Vous avez du temps libre, alors? Pas de soucis, la santé est bonne?
Oui, mais il reste l'amertume, toute une vie de travail pour rien. C'est différent des problèmes comme les vôtres, mais ça laisse aussi un goût de cendre sur la bouche.
Le dentiste posa ses instruments et ceux-ci se sont tabourés. Vous avez du temps?
Tout le temps que vous voudrez. Je vous ai dit que j'étais à la retraite.
Moi aussi, j'ai du temps. Vous êtes le seul client inscrit pour la journée.
Alors, parlons.
C'est ça, parlons. Vous voyez, l'art dentaire a été pour moi une vocation. J'ai beaucoup lu sur ce sujet. En fait, les hommes ont toujours eu des problèmes avec leurs dents à toutes les époques. Je me souviens, quand j'étais étudiant, nous allions nous balader dans les catacombes de Paris, une ville où j'ai fait mes études. Il y avait des ossuaires et nous les exploitions pour nous faire un peu d'argent.
Vous vendiez les crânes?
Oh oui, pas bien cher, mais ça nous permettait de vivre plus décemment. Je me souviens avoir examiné des centaines de mâchoires ayant appartenu à des gens d'époques variées. Que de problèmes, des trous, des caries, des véritables horreurs. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a des inventions qui ont totalement changé les choses à certaines époques.
Vous voulez parler d'anesthésie?
Oh, pas seulement ça. L'anesthésie est une invention relativement récente. Vous savez que les dentistes ont été les premiers à la fin du siècle à utiliser le peroxyde d'azote, plus ou moins, plus communément appelé gaz hilarant.
Oui, c'est assez cocasse, effectivement.
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous mesurez le progrès que représentent ces anesthésiques dont nous usons un peu pour un oui ou pour un non, pour dévitaliser une dent, l'arracher, la souffrance a disparu.
Oui, c'est vrai, la souffrance a disparu.
Les fraises à turbine sont apparues en France au début des années 60, ça aussi c'est un progrès.
Moi, je me souviens qu'avant, ça faisait beaucoup plus mal, avec les fraises qui tournaient à une vitesse lente.
Vous savez ce qui fait souffrir?
Non.
C'est l'échauffement. Les fraises à turbine sont efficaces parce qu'elles sont refroidies par le jet d'air qui les met en mouvement.
Dans le passé, les gens ne connaissaient pas tout cela, alors on ne connaissait que l'arrachage.
Ah, détrompez-vous, les Égyptiens, par exemple, savaient poser des bridges.
Non.
L'or a été très vite utilisé dans la dentisterie, pour ceux qui pouvaient évidemment se l'offrir, parce qu'il est malléable, qu'il est non corrodable. La salive est un acide très actif, vous savez. Les hommes ont très vite tout essayé du mieux qu'ils pouvaient. Il y a eu des poses de couronne en or à des époques fort anciennes.
Le dentiste devait être un personnage important à la cour d'un roi.
Oh, un bon dentiste avait le monde entier à sa botte. On était prêt à le couvrir d'or. Parfois, je me dis que si je pouvais aller dans le passé avec nos connaissances actuelles, je vivrais mieux que je ne le fais maintenant.
Et comment voyez-vous cela?
Gerd van Hollooyt, à Leyde, a été le premier à utiliser une fraise qui était actionnée par un aide à l'aide de pédales.
L'art dentaire est donc né ici, dans notre bonne vieille ville de Hollande?
Pas seulement, mais les fraises rotatives ont été utilisées ici pour la première fois. Le dentiste l'a cherché un livre. Regardez ces gravures. Le chercheur les feuilleta et s'arrêta sur quelques pages.
Oh, c'est étonnant.
Ah, s'il fallait aller dans le passé, il serait astucieux d'emporter le matériel actuel, pour la simple raison qu'il n'y aurait pas d'électricité pour actionner les différentes machines. Il faudra en concevoir d'autres qui passeraient plus inaperçus. Cette phrase à pédale, par exemple. Mais il faudrait aussi penser à emmener du désinfectant, des antibiotiques, des analgésiques, de l'amalgame. Je me vois avec tout ça dans des fioles brunes rangées dans un joli meuble en acajou. De quoi devenir très vite le meilleur dentiste de la ville.
Vous pensez qu'en faisant cela, nous pourrions gagner de l'argent assez vite?
Pourquoi nous?
Oh, je vous dis ça comme ça.
Oh, bien sûr, des gens qui plongeaient dans le passé avec les connaissances de notre époque, plus quelques onguents discrets, pourraient faire fortune assez rapidement. Le dentiste jeta un œil circulaire sur tout ce qui l'entourait et se mit à rire. Ah, je pourrais rembourser mes dettes, payer ce fichu matériel.
Et si vous et moi avions effectivement la possibilité de faire une telle chose?
Que voulez-vous dire?
Si quelqu'un vous proposait un voyage dans le temps avec une machine, seriez-vous prêt à le suivre et à exercer votre art dans le passé?
Vous plaisantez?
Pas le moins du monde.
Expliquez-vous.
Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les ondes de forme. Bien sûr, c'est une chose qui fait rire les esprits forts. Il y a 10 ans, il y avait déjà des choses que les scientifiques auraient dû remarquer.
Quoi, par exemple?
Vous connaissez ce qu'on appelle les dômes-espaces?
Ah, j'ai vu ça sur Internet. C'est à dômes-espaces.com, je crois.
Oui, c'est cela. Vous avez donc vu ces étonnantes maisons inventées par un certain Patrick Marsili?
Des maisons qui sont constituées de 2 calottes sphériques raccordées.
Exactement.
Ça doit être assez agréable à habiter.
Oh, il n'y a pas que ça. Figurez-vous que les rayons de courbure des calottes ne sont pas choisis au hasard. Ils doivent être dimensionnés avec une grande précision par rapport au nombre d'or.
Le nombre d'or possède effectivement un certain nombre de propriétés magiques, pourtant que je me rappelle.
On peut l'engendrer de nombreuses façons différentes. Par exemple, les côtés d'un rectangle sont dans le rapport qui correspond au nombre d'or. Si en enlevant un carré, on retrouve un rectangle semblable.
Et on peut rééditer infiniment l'opération.
Exactement. Une autre façon de faire, c'est en écrivant une fraction avec des séquences qui se suivent indéfiniment. Mais ce que seuls les initiés connaissent, c'est que le nombre d'or joue un rôle essentiel dans l'univers.
À ce point?
Ah, vous n'imaginez pas. Par exemple, le mathématicien Suryovitch a montré que le nombre d'or intervenait dans la manière dont le système solaire était structuré, qu'il déterminait les rayons des orbites des planètes.
Et je croyais que c'était ce qu'on appelle la loi de Titus-Bode.
Oh, cette loi n'est qu'une loi approchée.
Et je croyais que les scientifiques étaient des gens rationnels.
Qu'est-ce que ça veut dire, rationnel? Le rationaliste, c'est simplement quelqu'un qui décide une fois pour toutes de circonscrire sa pensée à l'intérieur d'un domaine de la taille d'un jardin de curé, alors que le monde de la connaissance est profond et vaste comme une forêt.
Vous en parlez avec poésie.
Non, avec passion, j'aime mon métier, et je n'entends pas qu'on le bride. Mais revenons à cette histoire de dôme-espace.
Le scientifique à la retraite sortit un croquis et des photos de sa serviette. Tenez.
Voici sa charpente. Et sur cette photo, on voit le même objet après qu'il ait reçu son vêtement.
Effectivement, c'est original, on dirait qu'il va décoller. Mais quel rapport avec le temps? La nuit avait commencé à tomber. Ils étaient toujours dans le cabinet du dentiste qui n'avait pas songé à allumer la lumière. On voyait simplement les réverbères à iodes s'allumer à l'extérieur, jaune, triste, perçant la nappe de brouillard. Le temps en ce mois de février serait probablement aussi médiocre demain qu'aujourd'hui. Et ce petit faubourg de cette ville hollandaise ressemblait au bout du monde à une sorte de cul-de-sac géographique.
J'y viens, dit le scientifique,
dont le regard s'allumait d'une lueur étrange.
Regardez bien cette maison. Ça n'est pas une demeure ordinaire. Elle réduit la radioactivité.
Vous dites?
Vous avez bien entendu. Sa forme agit sur les lois de la physique. À l'intérieur d'un dôme-espace, la radioactivité est réduite de 40%. Je l'ai mesuré avec Marsili. Nous avons fait plusieurs missions là-bas en France, plus exactement en Bretagne, à Skaer, où ils fabriquent les objets.
Mais ce sont des maisons ou ce ne sont pas des maisons?
C'est une connaissance secrète qui se cache dans ces objets qui prennent l'apparence de maisons.
Mais pourquoi?
Marsili est un initié, Suryovitch aussi d'ailleurs.
Et que voulez-vous dire par là?
Je crois que vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le monde de la recherche. Vous ne savez pas comment les gens travaillent. Suryovitch, par exemple, sait parler aux arbres. Mais je vous parlerai de tout ça une autre fois. Ce que vous devez retenir, c'est que certaines formes ont une action sur ce que les hommes appellent le réel.
Ça a l'air simple lorsque vous en parlez.
Mais c'est simple. Les gens veulent simplement tout comprendre. La nature nous parle, il faut simplement apprendre à l'écouter. J'ai travaillé toute ma vie sur les formes.
Et alors ?
J'en ai trouvé qui agissaient sur le temps.
Encore des maisons ?
Oui, c'est cela, ça ressemble à des maisons, mais quand vous refermez la porte, vous êtes ailleurs, vous repartez dans les couloirs du temps.
Ah, c'est extraordinaire votre truc.
J'ai fabriqué ce type de structure dans mon garage, ça n'est pas très grand, mais je pense que nous pourrions tenir tous les deux, plus une fraise à pédales que nous pourrions construire. J'ai un atelier assez bien équipé.
Le dentiste avait changé d'univers. Il pensait qu'il allait se réveiller. Le chercheur reprit.
Tout ce que je vous raconte ressemble à un discours de fou, je sais. Mais c'est le compte de l'expérience. Allons chez moi. Si vous le voulez bien, je vous ferai une démonstration. C'est à deux pas d'ici.
D'accord. Et laissez-moi 2 minutes pour téléphoner à Martine. Après la brume, la neige s'était mise à tomber. La demeure du chercheur ressemblait à une sorte de castel en miniature. Ils allèrent droit vers le garage. L'engin était là. Ha ! Pas une forme bizarre, c'est une forme bizarre.
Ils ne m'ont pas cru. Aucun n'a accepté d'y prendre place. Ils m'ont tous ri au nez.
Eux ?
Et les membres de la commission.
Ah oui, la commission.
Installez-vous à votre aise.
Ils se glissèrent dans la structure. Comment réglez-vous le temps ?
Avec des cristaux. Tout dépend de la façon dont ils sont taillés. Pour le moment, je n'ai qu'une seule possibilité de date d'arrivée. 1740.
Il ferma la porte. Pendant un court instant, le dentiste se dit qu'il avait affaire à un fou, mais que finalement c'était une soirée un peu différente des autres, et qu'en rentrant, il aurait une bonne histoire à raconter à Martine, un peu originale. Ça les changerait un peu de leurs emmerdements. Le scientifique enfila les cristaux de quartz dans les logements.
Voilà, c'est tout. Maintenant, nous pouvons sortir.
Le dentiste ouvrit la porte. Le garage avait disparu, ils étaient dans un bois. Non, mais je rêve.
Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes en 1740, plus exactement le 18 février 1740, en ce qui deviendra plus tard un faubourg de la ville de Leyde. Vous ne me croyez pas? Approchez-vous de ce bourg. Si nous laissons la machine dans ce bois, personne ne la trouvera. Il suffit de la couvrir d'un peu de feuillage. Mais essayez de ne pas vous faire voir. Nous n'avons pas, loin s'en faut, les costumes de l'époque.
Ils suivirent un chemin creux, boueux, avec des plaques verglacées.
Essayez de ne pas vous casser une jambe, ça nous compliquerait pas mal de choses.
Le dentiste le prit par le bras pour mieux assurer sa démarche. Soudain, ils aperçurent une taverne avec de la lumière. À l'intérieur, il y avait des gens qui buvaient. Un autre jouait de la vielle à rouet.
Mais vous avez raison, nous sommes bien en 1740. En hiver 1740, les cristaux induisent un transport parallèle dans le temps.
Ah oui, je comprends. Le dentiste ne comprenait rien du tout, mais ça n'avait pas d'importance. La ville regorgeait de gens qui avaient des dents dans un état épouvantable, c'était l'essentiel. Ils rebroussèrent chemin, reprirent place dans l'engin.
Poussez-vous un peu, dit le scientifique. Vous voyez, il suffit d'enlever les cristaux et nous allons nous retrouver instantanément dans mon garage.
Le dentiste réfléchit. Il faut qu'on construise une fraise à pédale. Avant qu'il ne se quitte, il se retourna et fixa le scientifique dans les yeux. « Vous êtes franc-maçon ?»«
Oui. »
Le dentiste s'inspira de gravures d'époque et fabriqua une fraise à pédale. Comme il y avait peu de place dans le translateur temporel, qu'il était un peu tard pour le modifier, il dut envisager un engin assez primitif. Le patient devrait s'asseoir sur une sorte de selle comparable à celle d'une bicyclette. Ses pieds et ses bras, de même que sa tête, seraient fixés à des tiges assez solides. En effet, on devrait opérer sans anesthésie. Comme le scientifique devrait actionner les pédales, il ne pourrait en même temps immobiliser le sujet. Il faudrait donc attacher celui-ci solidement. Il ne pourrait pas, comme indiqué sur les gravures, reconstituer cette scène où le dentiste est entouré de nombreux assistants qui immobiliseraient son patient. Il conçut une machine repliable qui pourrait se loger dans la soute de la machine. Dans la semaine qui suivit, une première expédition fut tentée. Ils refirent le même chemin vers le bourg. En partant, ils camouflèrent la machine comme la fois précédente. Dans la taverne, un homme hurlait des injures extrêmement grossières en hollandais. Il a une rage de dents, apparemment.
Et alors, que faut-il faire?
Et c'est dû à un excès de pression sanguine dans la pulpe. C'est un problème bêtement mécanique, mais ça le fait affreusement souffrir. Ils entrèrent dans la taverne. Ils avaient prévenu des vêtements un peu passe-partout. Ils amenèrent avec eux la fraise à pédale. Le seul détail qu'ils n'avaient pas eu le temps de régler concernait les chaussures. Ils avaient des baskets, mais grâce aux robes assez longues, ils espéraient que les gens n'accrocheraient pas à ce détail. Le scientifique s'adressa à l'assistance en disant que lui et son ami avaient un moyen de soulager cet homme. Bien qu'il parlât hollandais, il fallut faire très attention pour ne pas utiliser des mots qui ne seraient créés que des siècles plus tard, comme anesthésie. Les gens les regardèrent interloqués. Et c'est cette espèce de grand blond qui gesticulait qui leur dit
« Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais si vous pouvez le faire, faites quelque chose, et faites-le vite, même si vous devez m'envoyer en enfer, parce que je souffre trop !»
Ils le sanglèrent sur la machine. Le scientifique se mit à vouloir la fraise en agissant sur les pédales. Puis tout alla très vite. Le dentiste localisa la dent qui faisait souffrir l'homme, il visa la pulpe et donna un coup de fraise très appuyé. Crac ! L'homme eut très mal, mais une goutte de sang perla et il fut soulagé instantanément. Son sourire montrait bien que l'opération avait été un succès. Le miraculé désanglait, commanda des pommes de pierre pour tout le monde.
« Étranger, je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu vous bénisse, ça fait des jours que je ne dormais plus. Tenez, voilà tout ce que j'ai sur moi !»
Et il vida sa bourse dans leurs mains. Le tenancier de la taverne, enthousiaste, alla décrocher un jambon et leur en fit cadeau. Certains clients sortirent, visiblement pour aller chercher des voisins. Le dentiste et le scientifique eurent un peu peur que la chose ne s'ébruite et préférèrent, après ce premier succès, prendre congé et regagner prestement le translateur temporel. Quand ils furent de retour dans le garage, ils goûtèrent au jambon fumé qui était excellent. Leur escapade dans les couloirs du temps les avait mis en appétit. Le lendemain, un amateur numismate leur acheta les quelques pièces qu'ils avaient pu ramener du passé. Ils partagèrent moitié-moitié le produit de cette première expédition. « C'est pas mal, » dit le dentiste, « mais c'est pas avec ça que je pourrais payer les traites de ce mois. Il faudrait être plus audacieux et ramener de l'or. Nous sommes pris par le temps. » Les semaines qui suivirent furent consacrées à parfaire leur tenue vestimentaire. Un cordonnier accepta de leur confectionner des choses, tout en cuir, mais ils refusèrent la pose de semelle en caoutchouc. « Et pourtant, ça tiendrait mieux. »«
Oui, mais nous faisons partie d'une association des Amis des Violettes. Nous préparons une reconstitution pour cet été, nous tenons à respecter l'histoire dans ses moindres détails. »
Le cordonnier se montra un peu surpris, mais promit qu'il ne raterait pour rien au monde le spectacle qu'ils avaient évoqué devant lui. Le scientifique se fit confectionner des verres de contact. Lors de leur dernière expédition, il avait vécu tout cela un peu dans le brouillard, étant presbyte et hypermétrote. Mais pour actionner les pédales de la fraise et porter l'appareil, ça avait été. Il avait pu récupérer ses lunettes quand il était revenu dans le translateur temporel. Ainsi équipés, ils purent effectuer des reconnaissances avec discrétion. Ils localisèrent une propriété assez luxueuse où on menait grand train. Se faisant passer pour des voyageurs, ils apprirent que le propriétaire de la demeure avait de sérieux problèmes dentaires. « Un abcès, d'après ce qu'il me raconte, » dit le dentiste, « il faudrait des antibiotiques. Là, la fraise ne sera pas nécessaire. » Le scientifique avait un début de calvitie bien placé qui lui permit aisément de se faire passer pour un moine. De plus, il connaissait le latin et la Bible, ce qui était indispensable pour tout homme qui, à cette époque, aurait voulu prétendre connaître quelque chose à la science du corps. Comme leurs vêtements étaient plus convenables, ils purent obtenir une audience chez le maître de séance. L'examen in bucco permit au dentiste de confirmer le diagnostic. Le scientifique dit alors
« Mon compagnon et moi avons amené d'Antioche des hosties consacrées. Celles-ci ont le pouvoir conféré par Dieu,
et il se signa,
de guérir différents maux de l'âme et du corps. Si vous acceptez de recevoir le corps du Christ, votre vilain abcès de la bouche disparaîtra. Et à condition que vous fassiez en plus retraite, que vous absteniez de rapports sexuels et que vous disiez de 50 prières. »
Le dentiste alla fouiller dans son nécessaire de cuir et sortit une pilule de la taille d'un cachet d'aspirine.
« Elle est bien petite, votre prostie. »«
Oui, seigneur, c'était pour la nécessité du voyage. Il vous faudra la valise sur la croquer.
Hein, »« Ça, je sais, il faut pas blesser le corps de notre seigneur. »«
Et ajouter une rasade de vin. »«
Oui, le sang du Christ. » »«
Oui, l'un ne va pas sans l'autre. »« Écoutez, braves gens, les croix que vous portez au cou me donnent confiance. »« Je vais prendre cette hostie en monnaie réduite. » Et si vous me guérissez, je vous donnerai 12 pièces d'or.
Nous reviendrons dans 3 jours. L'homme absorba le cachet qu'il accompagna d'une grande rasade de vin et ils prirent congé. Eh bien, je pense que nous progressons. 12 pierres d'or, c'est pas mal. En tout cas, avec le dosage de cyclomycine que je lui ai administré, dans 3 jours, son absinthe ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Quand ils revinrent, le 20 février 1740, ils furent aussitôt accueillis avec la plus grande déférence. L'abcès de l'homme avait totalement disparu. Il en avait profité pour festoyer avec tous les gens importants qui pouvaient se trouver dans le bourg. Le scientifique avait reçu la bourse promise avec les 12 pièces d'or.
« Mon dentiste n'est qu'un imbécile et un incapable. Je vais le congédier !»
dit le bourg. Il présenta ses autres, des membres de sa famille ainsi que le chef de la ville en personne. Ils ont tous des caries, dit le dentiste. Je peux leur poser des amalgames, il faudrait d'abord nettoyer un peu tout ça, vous allez m'aider. Ils installèrent la fraise à pédale. Le moine scientifique, observant l'assistance avec curiosité, se mit en position. Les valets se firent expliquer comment attacher les différents patients qui se succédèrent sur le chevalet de torture. Le dentiste avait amené un liquide analgésique d'une efficacité toute relative. Toute la matinée fut donc peuplée par les hurlements des personnes qui se succédèrent. Mais sa réputation l'avait précédé et les gens se laissèrent torturer sans mourir. De toute façon, à ces époques-là, les gens supportaient la douleur beaucoup mieux qu'aujourd'hui où il faut anesthésier pour le moindre geste médical. Après avoir nettoyé du mieux qu'il pouvait les parties cariées, le dentiste prépara une quantité conséquente d'amalgame et se mit en devoir de bouger tous ses trous. Les gens furent fort surpris de découvrir ce qu'ils croyaient de l'argent dans la bouche.
« Mon ami est un maître en alchimie !»
dit le moine scientifique. Les pièces d'or tombèrent dans l'escarcelle des deux compères.
« N'oubliez pas l'abstinence sexuelle et les prières !»
dit le moine en les quittant.
« C'est essentiel pour que l'opération alchimique se déroule au mieux. Nous reviendrons après-demain. »
Jour dit, quand ils sortirent de la nef, dans les bois, des hommes jaillirent des fourrés qui les assommèrent prestement. Deux d'entre eux sortirent la fraise à pédale et l'emportèrent. Les autres mirent les corps inanimés du dentiste et du scientifique dans le vaisseau, auquel ils mirent le feu. Le cèdre rouge du revêtement et le lamellé-collé de la structure brûlèrent comme de l'amadou. En quelques minutes, les voyageurs venus du 3e millénaire et leur vaisseau étaient devenus d'une fumée ténue que personne dans le bourg ne remarqua. Dans son échoppe, Gert van Holt, le dentiste attitré du bourgmestre que ce dernier avait jeté dehors sans ménagement 2 jours plus tôt, installa cette étrange machine et se mit à l'examiner.